Nous sommes le lundi 16 novembre, il est 19h sur le 101.5 de Radio G. Et comme tous les 15 jours, c'est l'heure de la case de Seb. Ce soir, nous allons parler d'à peu près histoire, de petites anecdotes pénibles, de surcharges pondérales, de moments de grâce, d'années lycées, de super-héroïnes, de cow-boys et de mains visibles. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics, de bien belles images qui vont pouvoir alléger vos journées un peu maussades dans cette période de reconfinement et qui peuvent éventuellement vous donner des idées de click and collect à faire chez vos libraires favoris. On va commencer avec une nouvelle habitude, hein. Je pense que je vais toujours privilégier ce genre de choses, avec de l'humour absurde. Encore une fois, je me dirige assez évidemment vers la collection Pataquès des éditions Delcourt, avec « À peu presque » de Marc Dubuisson. À peu presque, c'est une bande dessinée qui va nous propulser à travers les âges, représentant des scènes soit connues, soit complètement anecdotiques, et en mettant en scène des personnages dont le ridicule et le grotesque et l'absurde ne nous les échappera pas, alors que les protagonistes, eux, sont complètement indifférents à cette situation ou trouvent ce côté complètement décalé. Alors, une pépite, puisque on va se retrouver avec un humour qui s'intègre dans le banal, en fait. L'absurde n'est pas présenté comme un gros gag derrière. Là, les personnages ne se rendent absolument pas compte des situations, et des situations qui pourraient être complètement désastreuses sont ici des situations complètement banales, anodines, voire un peu badinage. Par exemple, en 1621, on peut imaginer ce personnage qui ressemble à un paysan qui va ouvrir aux collecteurs. Les collecteurs sont des personnages avec le masque des docteurs de peste, le chapeau des docteurs de peste, et en fait ils récupèrent les cadavres. Et le gars leur fait « Ah cool, qu'est-ce qu'il y a cette année? C'est pour les calendriers? Ah bah je prendrais bien les chatons. Ah ouais, on a les chatons en décomposition, ou alors une gravure sur le choléra, ou celle sur la peste bubonique. Ah bah je vais prendre les chatons, hein. Oh, ça aurait fait plaisir aux enfants. Ah bah pardon, les enfants, j'oubliais, ils sont là. » Et hop, on charge les enfants décédés sur la malle et la charrette des collecteurs. Vous voyez le côté complètement grotesque d'une situation qui pourrait être absolument enfantine et anodine, alors que c'est complètement absurde et c'est de l'humour noir. Alors, l'humour noir, c'est pas le plus fréquent, hein, dans cet ouvrage. C'est vraiment un humour, je sais pas comment... Je sais pas comment le qualifier, c'est vraiment drôle, ça parle parfois de préjugés, parfois ça pointe des choses que l'on pense connaître de l'histoire, comme par exemple le fait que Gutenberg, c'était sans doute l'inventeur de l'imprimerie, mais qu'avant toute chose il imprimait des bibles, et voilà, ça donne des situations complètement idiotes, mais ma foi fort rigolotes, comme beaucoup d'ouvrages de la collection Pataquès, ça se lit, ça se picore, ça peut se lire d'une traite, mais vaut mieux le picorer une séquence par séquence. Là, il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique, hein. Ça se passe à travers les âges, aussi bien aux hommes des cavernes que sur des périodes beaucoup plus récentes. Et faut en prendre une fois de temps en temps, rigoler un bon coup et puis le reposer pour y revenir avec un grand plaisir par la suite. Graphiquement, c'est très simple. Hein. Ce sont des bonhommes ronds avec des accessoires. Donc rien ne différencie vraiment la tronche des bonhommes puisque c'est vraiment une boule ronde avec des petits points et puis une barre pour faire la bouche. Mais surtout les accessoires qui vont permettre de personnifier et de donner une caractéristique à ces personnages. Les rendant, ma foi, fort sympathiques et le comique de la situation étant d'autant plus fort. C'est un petit ouvrage tout à fait sympa qui, ma foi, se lit fort bien. Je vous redonne les références, c'est à peu presque de Marc Dubuisson, c'est dans la collection Pataquès des éditions Delcourt. On va enchaîner avec deux ouvrages dont la thématique est à peu près la même, à savoir l'Encyclopédie des petits moments chiants 2, de Keck dans la collection Shampoing, toujours chez Delcourt, et le carnet d'aventure ordinaire, La Loose de Mademoiselle Caroline, toujours chez Delcourt. Pourquoi ces deux ouvrages sont un petit peu identiques? Parce que les deux ouvrages parlent de petits moments chiants de la vie, des petits moments où on se dit mince, on a mieux fait de rester couché. Et c'est vraiment. On se sent bien en fait après avoir lu ça puisqu'on se dit tiens, ça n'arrive pas qu'à moi. Par exemple, ce qu'on a sur la couverture de l'Encyclopédie des petits moments chiants, quand on ferme sa fermeture éclair de veste et que on enferme, que quand on remonte la fermeture, en fait le bas de la fermeture reste ouvert et on se rend compte qu'on a foiré en fait complètement sa fermeture éclair. Et du coup, ce sont que des petits moments, ce sont que des petits instants qu'on a tous vécu, être malade en voiture, quand un ami nous demande gentiment si on peut aider à monter la machine laver ou le lave-vaisselle, je sais plus ce que c'est dans l'ouvrage, et qu'on va finir à moitié mort, écrasé dans un angle d'escalier avec la machine à laver contre la gorge parce qu'effectivement, il fallait faire une pause et on n'en peut plus. Vous voyez, enfin, tout le monde a vécu ce genre de choses et c'est vraiment des petits moments chiants. Quand par exemple faut se connecter sur sa livebox, enfin sa box internet, je vais pas faire de pub, et que on n'arrive pas à se connecter avec le mot de passe parce que le mot de passe est complètement pété. C'est le genre de choses qui est complètement habituel. Et voilà, bon, on peut rire de ces personnes-là jusqu'au jour où on se rend compte que en fait ça nous arrive, et là du coup c'est vachement moins drôle pour la personne à qui ça arrive. Donc on a cette espèce de côté un petit peu idiot et un petit peu habituel de se moquer de situations qui peuvent bien entendu nous arriver un jour ou l'autre. Le dessin de Keck, alors c'est il n'y a pas de cases, ce sont des personnages ou des séquences qui sont perdues dans une espèce de flou au milieu des pages. Il y a rarement plus de 2-3 séquences comme ça au milieu de page. Il n'y a pas de rupture entre chaque histoire. Parfois elles sont notées avec un petit texte quand t'étais si ou quand il t'arrive ça, mais il n'y a pas de vraie séparation entre chaque histoire, ce qui permet de le picorer également, hein. C'est des ouvrages qui sont faits pour ça, qui sont faits pour être picorés, et du coup c'est vraiment fun en fait. C'est un petit moment tout à fait agréable. C'est en noir et blanc, donc c'est pas ça se lit, c'est format manga, format poche, donc ça se passe, on peut se trimballer avec, on peut le laisser gentiment poser alors sans que ce soit considéré de manière péjorative, mais on peut le poser dans les toilettes et le laisser à portée de la main de tous ceux qui vont vouloir le feuilleter. Au contraire, je pense que ce sont des ouvrages qui sont prévus pour être picorés dans des endroits comme ça ou dans des salles d'attente, encore une fois sans dénigrer le propos. Et La Loose de Mademoiselle Caroline, eh bien, c'est un petit peu le même problème. Ce sont des situations où tu penses que tout se passe bien, et puis en fait il y a un petit moment où il y a un truc qui va pas bien se passer. Par exemple, ce moment où vous avez trouvé le super spot à la plage et puis que quelqu'un vient se coller pile poil à côté de vous alors qu'il y a 30 ou 40 mètres de plage vide autour, et que effectivement ça va vous ruiner votre journée. Comme par exemple exemple, quand vous sortez de chez le coiffeur avec cette super couleur qui vous plaisait tant, qui fait que vous êtes vraiment fabuleuse, super belle, et qu'après un premier shampoing, bah, vous vous retrouvez avec une couleur qui n'est plus tout à fait la même, qui n'est plus tout à fait ressemblante à celle que vous vouliez, et qui fait surtout que vous aviez l'air d'un vieux balai asserpillé, et que c'est pas du tout le glamour que vous cherchiez. Mademoiselle Caroline, toujours avec son dessin très simple, très coloré, un dessin qui fonctionne bien sur du blog, qui marche bien également en ouvrage. J'aime pas dire un dessin girly, mais c'est un dessin qui fait feel good, et puis très je sais pas, ça fait blog pour filles. Je sais que je fais un gros macho en parlant comme ça, mais ça plaît bien, c'est vraiment agréable, et c'est des petits moments sympas. Donc n'hésitez pas, hein. Donc je redonne les références des deux ouvrages. On a l'encyclopédie des petits moments chiants numéro 2 de Keck, dans la collection Shampoing aux éditions Delcourt, et puis on a Carnet d'aventure ordinaire, la loose de Mademoiselle Caroline aux éditions Delcourt. Je crois qu'elle le disait elle-même dans le dans un de ses posts Facebook, Mademoiselle Caroline, que ce petit bouquin, vous pouvez l'acheter lors d'une séance de dédicace, vous le lirez pendant la file de dédicace, et puis bah, vous pourrez le faire dédicacer juste à la suite, ce qui serait plutôt cool. On va se faire une petite pause musicale, et puis on va se retrouver encore une fois avec Mademoiselle Caroline, mais je vous laisse deviner, alors si vous connaissez un petit peu ses sorties, le morceau musical qui va arriver devrait vous parler énormément. Il s'agit de Mika avec Big Girls.
Walks into the room, feels like a big balloon. I said, hey girls, you are beautiful. Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, I'm on my knees screaming, big girls, you are beautiful. You take your skinny girl, I feel like I'm gonna die. Cause a real woman needs a real man, here's why. You take your girl and multiply her by four. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be gonna do baby. No need to fantasize, since I was in my braces. Water in a hole with the girls around and curves in all the right places. Big girls, you are beautiful. You are beautiful. Big girls, you are beautiful. Big girls, you are beautiful. Walks into the room, feels like a big balloon. I said, hey girls, you are beautiful. Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, I'm on my knees screaming, big girls, you are beautiful. You take your girl and multiply her by four. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be gonna do baby. No need to fantasize, since I was in my braces. Water in a hole with the girls around and curves in all the right places. Big girls, you are beautiful. Girls, you are beautiful. Big girls, you are beautiful. Big girls, you are beautiful. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be calling you baby. No need to fantasize, since I was in my braces. Water in a hole with the girls around and curves and all the right places. Big girls, you are beautiful. Big girls, you are beautiful. Big girls, you are beautiful. Oh, you are beautiful. Move on down, find yourself a big lady. Big boy, come on around, we're never gonna be baby. Been known to fantasize since I was in my braces. Walking home with the girls around and clubs and all the right places.
Big girl, you are beautiful. Big girl, you are beautiful. Big girl.
big girl, you are beautiful.
Radio G 101.5 FM.
C'était Mika avec Big Girls sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes toujours à l'écoute de La Case de Seb et on vous parle toujours de bande dessinée. Je vais enchaîner avec un livre. Donc, je vous le disais, hein, le thème de la chanson parle de lui-même. Le Big Girls, You Are Beautiful, femme forte, vous êtes magnifique. Eh bien, c'est un peu le thème de cette chanson. Et c'est un peu le thème de cet ouvrage, excusez-moi, qui s'appelle « À volonté, tu t'es vu quand tu manges », une collaboration de Mademoiselle Caroline et Matou aux éditions Delcourt. Alors, de quoi ça parle ? Eh bien, ça parle du quotidien de deux femmes qui sont fortes, qui sont... en surpoids et qui vont nous présenter leur vie quotidienne de femmes en surpoids, tous les préjugés qu'on peut avoir, tous les regards qu'on subit ces femmes alors c'est un exemple avec ces deux personnes, mais qui sont subies par toutes les personnes en surpoids depuis des temps immémoriaux. Et c'est surtout la possibilité de dédramatiser un petit peu ça, de montrer que ces regards sont à la fois durs, sont à la fois difficiles, sont à la fois un poids supplémentaire en fait à la surcharge pondérale de ces personnes, et que ce n'est pas ça qui va les aider ni les empêcher de vivre. À travers l'ouvrage, elles expliquent on peut parfois, avec la meilleure intention du monde, blesser quelqu'un qui est en surpoids et qui déjà cherche à un échappatoire, qui cherche à se sentir bien dans son corps, peu importe ce qu'il en est, que ce n'est pas en jugeant en fait qu'on va pouvoir aider ces personnes-là. En leur disant écoute, t'as qu'à faire un régime et tu verras, tu vas maigrir. Des fois c'est pas aussi simple, hein. Je parle en connaissance de cause, et que faut arriver à vivre avec ces petits tracas du quotidien, ces vêtements qui sont ma foi super jolis mais dans lesquels on n'aura jamais notre taille, ou alors ces vêtements qui nous vont bien mais qui sont plutôt une habitude qui camoufle un petit peu ces bourrelets disgracieux ou ces jambes un petit peu trop larges, alors que on pourrait essayer de faire autre chose. Et du coup, c'est assez agréable de découvrir des personnes qui, au final, se disent que il vaut mieux essayer de s'assumer, de se libérer du regard des gens, que de vraiment continuer à souffrir comme ça. Alors, c'est des expériences, c'est du vécu, que ce soit Mademoiselle Caroline ou Matou, c'est vraiment des histoires de leur vécu. C'est une collaboration qui fait qu'elles parlent de leur vie, d'elles-mêmes, et de leur ressenti. Alors, tout le monde ne s'y retrouvera pas, hein. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui se dit dans cet album, mais ce sont leurs avis, et ça on ne pourra pas du tout leur enlever. Et c'est une belle découverte que de découvrir la vie de deux personnes, de deux femmes fortes qui ont décidé de pas se laisser faire, hein. Comme c'est dit à un moment, est-ce qu'il vaut mieux être triste et maigre ou de bonne humeur et bien portante? Et ça c'est chacun à chacun de voir. Moi je pense que je ferai pas de grossophobie, je ferai pas de postulat, je vais pas juger une personne maigre parce qu'elle est trop maigre, ni une personne grosse parce qu'elle est trop grosse. Chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir et ce qu'il a envie d'être, et c'est surtout ça qui est important, puisque c'est chacun, la vie de chacun regarde chacun. Donc c'est vraiment sympa. Graphiquement, les deux autrices ont réussi à mêler chacune leurs univers, et ça marche très très bien. Au départ, on a vraiment les deux personnages séparés qui vont finir par se retrouver dans la journée et échanger leurs différents avis et leurs différents tracas, leurs problèmes, leurs je perds mes mots, leur tourment, et les deux univers se rejoignent bien. Ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on est sur un dessin qui est hyper girly, mais sans que ce soit négatif ni machiste, ça marche bien, et je pense que le fait que les deux autrices soient dans le même type de dessin, un peu lâché, un peu débridé, fait que le mélange des deux univers fonctionne très bien, et ça marche bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait un dessin qui prenne plus le pas sur l'autre. C'est un beau mélange, ça fonctionne bien, c'est vachement coloré. Le pull de Mademoiselle Caroline en rose fuchsia nous claque bien dans les mirettes à chaque fois qu'elle est présente. Mais du coup, ça marche vraiment bien, ça fonctionne, c'est un bel univers, c'est une belle expérience, c'est un beau chemin de vie et un beau partage d'expérience qu'il faut lire, au moins pour prendre conscience que les personnes à qui on fait des réflexions, peut-être parfois avec la meilleure intention du monde, elles peuvent le prendre différemment en fonction de leur vécu. Et c'est un bel album. N'hésitez pas à le lire, vous ferez votre avis. On pourrait faire juste un reproche, c'est que ça se lit extrêmement vite. Ce qui aurait pu être éventuellement intéressant, c'est de sourcer un petit peu plus les différents propos. Alors, je veux pas. C'était peut-être pas le but du bouquin, mais ça aurait pu être intéressant de montrer, de compléter avec certaines statistiques ou certains autres témoignages qui auraient pu compléter un petit peu le bouquin. Comme le dit Mademoiselle Caroline, à un moment, ça peut être aussi complété par son ouvrage qui s'appelle Je commence lundi, qui parle de ses déboires avec les différents régimes qu'elle a pu faire dans sa vie, toujours aux éditions Delcourt. Donc comme elle le dit, elle a perdu 54 kilos au total dans sa vie, c'est pas rien, mais elle les a quasiment toujours repris, donc c'est pas voilà. La morale de cette histoire, c'est vivez bien dans votre vie. Ça va être dur de s'en fiche de ce que disent les autres sur vous, mais si vous pouvez déjà vivre en paix avec votre propre corps, ce sera déjà 50% du travail de fait. Je redonne les références, c'est À volonté, tu t'es vu quand tu manges, de Mademoiselle Caroline et Matou, c'est aux éditions Delcourt, et ça vaut vraiment le coup de le lire pour arriver à peut-être mettre fin à cette grossophobie qui se niche partout dans le quotidien. Si au moins nous, en tant qu'humain, on peut arrêter, et peut-être que ça se calmera aussi dans tous les autres biais, les médias et tout ce qui va avec. Allez, on continue avec un autre ouvrage. Chers auditeurs, je pense que vous commencez à me connaître. Je déteste qu'on me force la main et j'ai tendance à être allergique aux choses qui ont trop de succès, hein, même si je suis pourtant bon public. C'est un peu bête comme façon de fonctionner, mais voilà, si c'est très populaire, je vais avoir tendance à y aller à reculons, me disant que c'est sans doute trop populaire. J'intellectualise peut-être beaucoup trop de choses. Et en partant de ce principe, vous doutez sans doute que je n'ai jamais lu Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, le roman de Raphaël Giordano, pourtant lu par plus de 3 millions de lecteurs. Alors quand j'ai eu l'opportunité de lire son adaptation en bande dessinée, je me suis un peu forcé. Autant vous dire tout de suite que le pari n'était pas gagné, et au bout de 10 pages, ce que j'avais trouvé de plus intéressant, c'était le petit signe rouge en tissu inhabituel dans les albums des éditions Soleil. Un petit signe qui me permit de fermer rapidement le livre au bout de quelques pages et de le poser dans un coin pour presque l'oublier. Mais c'était sans compter sur un mail de l'attaché de presse des éditions Soleil qui me dit « En ces moments de disette et de mauvaise humeur, ce serait peut-être intéressant d'en parler, parce qu'effectivement, c'est un bouquin feel good et les gens en ont sans doute besoin. » Alors je me suis dit, bon gré mal gré, on va aller rouvrir cet ouvrage et puis on va essayer de s'y atteler. Et grand bien m'en a fait, puisque c'est vraiment un moment feel good, je reprends les mots, et c'est un moment vraiment très agréable à passer. L'histoire, c'est celle d'une jeune femme qui a visiblement tout en apparence pour être heureuse, et qui un soir un soir d'une mauvaise journée, une journée pourrie, va se retrouver sous la pluie en panne de voiture et va être hébergée pendant quelques heures par un monsieur qui va finir par se présenter comme étant un routinologue. il voit très bien que cette jeune femme en a gros sur la patate, non seulement ce soir, mais que beaucoup de choses semblent ne pas aller. Et il lui dit, bah, écoutez, le jour où vous aurez besoin, n'hésitez pas, vous me contactez, je vous expliquerai ce que c'est que mon métier, et je pense que ça pourra vous être utile. La jeune femme, Camille, s'appelle, semble laisser tomber un petit peu le truc. Et puis, bon, de journée en journée, elle finit par y repenser et elle contacte cet étrange et énigmatique routinologue. Elle finit par le retrouver dans son bureau et ce monsieur lui explique que si elle s'engage à 100% dans ce qu'il va lui proposer, eh bien, elle pourra changer sa vie. À partir du moment où elle va être maître de son destin, elle pourra faire le nécessaire pour que sa vie soit plus intéressante. Donc avec beaucoup de conseils, avec aussi beaucoup de citations, que ce soit des citations de philosophes ou des citations d'écrivains, Claude va la guider petit à petit vers une progression. Il va lui donner des conseils, il va lui donner des exercices qui, s'ils peuvent sembler tout à fait anodins, vont avoir un réel impact sur le quotidien. Le mari de Camille va finir par se poser des questions sur cette femme qui est en train de tout changer, quitte à remettre son couple en question. Et ça crée des petits clashs, mais au fur et à mesure, Camille va arriver à développer et à partager cette nouvelle vie et ces nouvelles émotions qui commencent à poindre. Alors voilà, au départ on peut se dire tiens mais c'est gnangnan, c'est cucu, il y a ce côté feel good effectivement, mais on n'a pas l'impression qu'à un moment on nous prend pour des idiots, parce que tous les conseils du routinologue, c'est des choses que moi je pourrais vous dire, c'est des choses que n'importe qui peut dire à quelqu'un d'autre, mais que rarement on fait. Rarement on décide de guider quelqu'un, de prendre par la main en disant écoute, j'ai l'impression que ta vie va pas bien, et si des fois t'essayais juste dans ta journée par exemple de sourire à 10 personnes, tu te mets ça comme objectif aujourd'hui, là pendant une semaine, tous les jours tu souris à 10 personnes, tu te forces. Et ce côté positif va permettre de changer votre vie. Et ben c'est impressionnant parce que ça peut marcher. Alors j'ai pas testé la méthode, mais il y a beaucoup de choses qui me paraissent tellement sensées que je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Alors, je vous cache pas que ce bouquin, il y a quand même une petite surprise. Il y a un petit fil narratif, puisqu'on se demande ce routinologue, c'est quoi son but en final, parce qu'il se fait même pas payer hein, par Camille. Il dit, vous verrez, à un moment, je vous demanderai quelque chose, et puis ce sera à ce moment-là que vous aurez payé votre dette et qu'on aura accompli notre contrat. Et du coup, ça, c'est le petit twist final que je vous laisserai découvrir, mais il y a vraiment, c'est vraiment, vraiment agréable, c'est vraiment sympa. Donc, faut y aller. Hein. Alors, je ne vous cache pas qu'au départ, le dessin m'attirait pas beaucoup. On était vraiment sur un truc un peu naïf. C'était pas désagréable, mais c'était trop lisse. Les personnages n'avaient pas d'envergure, il n'y avait rien qui me fascinait dedans. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a un découpage qui est assez efficace, que les personnages, on arrive à avoir des visages qui sont très expressifs, que même s'il y a des cadrages parfois un petit peu serrés, on a de belles pages avec de beaux décors. Au niveau couleur, on a quelque chose qui va jouer sur des ambiances qui vont être un petit peu plus intéressantes au fur et à mesure. Il y a des choses qui s'éclairent un peu plus et c'est vraiment super agréable. On a des pages de cahier qui sont rajoutées pour donner un petit peu plus de corps, pour comprendre un petit peu ce que traverse Camille via non pas des textes ou des gens qui parlent, mais via des choses qui vont se prolonger dans l'ouvrage, comme si on se penchait sur les travaux de Camille, sur ses avancées dans le livre, et ça rend le tout hyper dynamique, hyper vivant, et on voit pas le bouquin passer, et c'est vraiment vraiment très très bon, et on aurait presque envie, alors, j'ai pas beaucoup de temps hein, de se plonger dans le roman d'origine, mais ça peut être une bonne porte pour découvrir justement ce roman, ou simplement se contenter de se dire, cette BD, est-ce qu'elle peut m'apporter des choses, est-ce qu'elle peut me faire découvrir des choses et sur moi-même, hein, et me donner éventuellement des petits conseils qui renforce un petit peu le twist final, puisque on peut considérer éventuellement que cette BD c'est une des réponses d'une personne à ce twist final qui peut vraiment vraiment être très bien. Et du coup c'est une belle surprise et c'est vraiment sympa. Donc bah, n'hésitez pas hein, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est de Raphaël Giordano, c'est de Sophie Ruffieux et c'est basé sur le roman de Raphaël Giordano, c'est de Sophie Ruffieux et Lilian, et c'est aux éditions Soleil, et c'est un vrai moment de lecture feel good. Du coup je paraphrase toujours l'attaché de presse, mais elle avait bien raison de me conseiller de le lire. Surtout ne faites pas comme moi, ne le posez pas dans un coin. Et par contre vous pouvez faire un petit peu comme les autres bouquins, laissez-le dans vos toilettes, laissez les gens le feuilleter, le parcourir, quitte à l'abandonner sur un banc quand vous l'avez lu, pour que les gens puissent en profiter au maximum. Je pense que ce serait une bonne chose à faire. On se refait une pause musicale avec Night Club et la chanson Gossip. De retour sur le 101.5 de Radio G, c'était Night Club avec la chanson Gossip. On reprend le cours de notre émission de la case de Seb. Vous êtes toujours sur le 101.5 de Radio G. On s'oriente un petit peu du côté du pays de l'oncle Sam avec 2, 3, sans doute 4 ouvrages de comics pour finir cette chronique. On fera sans doute une pause entre les deux. On va commencer avec Giant Days, nos années fac. C'est écrit et créé par John Allison. C'est illustré par Lisa Tremaine, au début, suivi de Max Sarin. Et c'est sur des couleurs de Whitney Cougar. De quoi ça parle? C'est publié aux éditions Aquileos. Donc ça, c'est une intégrale et c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Moi, je ne connaissais que de nom Giant Days. On m'en avait toujours dit du bien et je ne m'étais jamais penché dessus. Et un petit peu comme les ouvrages précédents, c'est vraiment un ouvrage qu'on peut considérer comme un ouvrage feel good, puisqu'on va suivre des aventures de personnages complètement barrés et qui sont complètement fun. On suit les aventures et la scolarité de trois jeunes femmes qui, par un concours de circonstances, sont à la même fac. Il y a Suzanne Ptolemy qui est l'héroïne et narratrice. Un personnage qui est à la fois elle se définit comme un réservoir de bon sens, mais elle est surtout en marge et un petit peu contre tout le monde, bougonne quasiment tout le temps, et dès qu'on lui fait une crasse, ça a tendance à être prévu sur le long terme. On a également Daisy Wooten qui est plutôt le personnage tête en l'air, fleur bleue. Suzanne la décrit comme un personnage composé à 50% de cheveux et 100% démuni face à ce monde hostile. Esther de Groot qui est une jeune gothique aimant à psychodrame qui est un petit peu le ressort scénaristique de l'album, puisque à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'un petit peu complexe, elle est quasiment à l'origine de ça, ce qui est plutôt rigolo. Ces trois personnages sont hyper attachants, chacune avec leurs défauts. Esther, elle est super belle, grande, mais elle a tendance à détester à peu près tout le monde. Suzanne, comme je vous disais, elle est très franche du collier et si elle doit te rentrer dedans, elle va te rentrer dedans. Et puis Daisy, elle est complètement perchée. Ne nous cachons pas, elle est complètement cinglée. C'est le personnage le plus innocent et le plus roots du bouquin. Elle est complètement insensible au côté mélodramatique des autres personnages. Elle est vraiment dans un monde d'ailleurs. Elle est une sorte de druide, si vous pouvez identifier le truc, sans le côté psychédélique. Puisqu'elle est vraiment un personnage virginal, on va dire, sans côté machiste du tout, un personnage frais. Et du coup, on suit les aventures de ces trois filles dans leurs années fac, que ce soit à travers une maladie qui va les rendre malades et puis qui va les empêcher d'aller en cours, quand il s'agit de se rendre compte que y a des partiels dans 2 semaines et qu'on a absolument rien foutu de toute son année, avec des mélodrames par milliers, avec des moments où simple discussion vire à la joute verbale. Et c'est hyper hyper agréable de voir ces personnages qui sont super cool. Enfin, c'est un bon moment, on a l'impression de se retrouver à la fac avec des copains, des copines. Il y a beaucoup de vécu. Je sais pas si John Allison s'est inspiré de son propre vécu de garçon et transposé ça auprès de ses trois personnages féminins, mais du coup c'est vraiment hyper cool, c'est vraiment agréable. Il y a un côté un peu lâché avec des personnages avec des bouches et des yeux qui occupent beaucoup trop de place sur leur visage, et c'est vraiment super, c'est très agréable à regarder, c'est très drôle, mais drôle sans être outrancier, c'est un drôle parce que c'est touchant en même temps. Enfin, c'est vraiment, je sais pas comment le dire. Mais c'est vraiment super agréable, c'est vraiment très bien, c'est un bon moment à passer, c'est des personnages qui sont souvent excessifs dans leur gestion du quotidien, mais qui font que ça marche super bien, féministe, avant-gardiste, elles sont top et c'est vraiment super cool à regarder, c'est vraiment super cool de les suivre. chacune dans cette vie quotidienne qu'ils ont. Et c'est vraiment à lire. Si j'ajoute à ça que les éditions Aquileos ont fait un boulot de dingue en fait sur cet ouvrage, on se retrouve un ouvrage avec un petit peu un style de yearbook qu'on peut voir dans pas mal de facs. Vous savez les livres où les personnages, enfin les élèves ont leurs photos avec un bout de texte. Donc on a un super ouvrage avec une texture, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a un personnage qui est engravé en fait dans la couverture, toute la couverture est rouge avec du texte noir très sobre, une grosse bordure noire avec un angle noir, et vraiment l'ouvrage est très très joli et hyper agréable à lire. Donc voilà, même si c'est juste pour le mettre sur votre étagère, ce qui serait forcément dommage, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment de la très très bonne lecture, et c'est fabuleux. Donc c'est la première intégrale, je crois qu'il y a 4 intégrales au tout, je ne me suis pas vraiment renseigné, donc, mais n'hésitez pas, c'est vraiment superbe. Donc c'est dommage de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Je vous redonne les références, c'est de Giant Days, nos années fac, c'est la première année, l'automne, c'est de John Ellison, Lisa Tremaine, Max Sarin et des couleurs de Whitney Cougar, et c'est aux éditions Aquileos. On continue avec du comics, avec Wonder Woman Legendary de René Delise, je suis pas sûr de le prononcer comme il faut, dans la collection Urban Link de chez Urban Comics. Un ouvrage qui propose de revisiter de façon un peu plus jeune les origines de la très célèbre Wonder Woman, de ses premiers âges jusqu'à la notoriété qu'on peut lui connaître. C'est un ouvrage assez massif de près de 300 pages que propose René Delise. Le but ici est de faire découvrir le personnage de Wonder Woman au plus jeune, mais également de créer des personnages auxquels vont pouvoir s'identifier les jeunes ados, puisque la collection s'adresse principalement à eux, et qu'ils puissent développer des thématiques qui vont pouvoir leur permettre de s'identifier et de comprendre leur quotidien à travers des personnages super-héroïques. On avait déjà parlé de Wonder Woman il y a quelques temps dans l'émission avec un ouvrage plus jeunesse du coup qui était Diana, princesse des Amazones. Ici, l'origin story est tout à fait différente. On suit l'histoire de Hippolyte, la reine des Amazones, qui, suite à un conflit, va se retrouver isolée avec ses Amazones sur une île et on lui a conféré l'immortalité, mais le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant lui pèse. Elle va braver les dieux, demandant à avoir un enfant, et cet enfant va être la jeune Diana, qui, elle, sera mortelle et ne pourra absolument pas prétendre succéder à sa mère, ni même succéder en tant qu'Amazone, puisqu'on lui refuse même le droit d'apprendre le combat. Mais c'est sans compter sur le caractère bien trempé de la jeune femme qui commence à sentir que sur l'île de Themyscira, il se passe quelque chose qui n'est pas vraiment normal, une espèce d'ombre qui rôde, et elle décide, avec l'aide d'une autre Amazone, de défier sa mère en s'entraînant discrètement à l'art du combat, désobéir on va dire, et lors d'un de ses nombreux entraînements, elle va finir par tomber sur un homme, le seul homme qui semble être tombé du ciel et qui sera visiblement le jouet d'un complot visant à destituer Hippolyte et repartir sur le sentier de la guerre. Je ne vais pas vous raconter plus l'histoire parce que le but est vraiment de découvrir les origin story, cette nouvelle origin story de Wonder Woman, mais qui est vraiment, vraiment agréable. Au départ, on est vraiment sur le côté très grec, très ancien, et puis petit à petit, vers le milieu du livre, on va se retrouver dans notre monde à nous, à l'époque de la Première Guerre mondiale, ou de la Seconde, je ne sais plus d'ailleurs, j'ai un doute. Et du coup, la transition se fait bien là où on pouvait reprocher à, je sais pas, un Thor chez Marvel d'être un petit peu brut de décoffrage. Diana garde une certaine innocence. Elle est, elle va pas imposer. Elle est curieuse. Elle va découvrir un petit peu tout ce qui se passe plutôt que de juger à l'emporte-pièce et de se comporter comme une brute ou un personnage absolument, on va pas dire odieux, mais mal poli, à la limite du cliché. Et du coup, ça donne vraiment une envie de découvrir, de l'accompagner et un peu plus de sensibilité à ce personnage qui est vraiment... À la base, j'aime pas Wonder Woman, soyons clairs, c'est pas un personnage qui m'attire vraiment. Je trouve trop certains des personnages de l'écurie DC un petit peu trop monolithiques et... on pourrait résumer presque à une seule ligne de conduite, qui est savoir un droit moral et rien d'autre. Et là, on se retrouve avec une Wonder Woman qui se pose des questions, une Diana qui découvre un univers qui n'est pas le sien, qui va quand même commencer à remettre en question tout ce qu'elle a pu apprendre. Sur son île, on lui a appris que les hommes, c'était le mal. Là, elle se rend compte que non, les hommes et les femmes sont capables de vivre ensemble. Il y a plein de choses qui sont qu'elle va découvrir. Bon, je vous laisse les petits passages, les petites découvertes quand Diana va commencer à découvrir ce qu'est le cinéma. Ça reste un grand moment d'anthologie, mais c'est vraiment super sympa, c'est vraiment agréable, c'est vraiment un beau bouquin. Au niveau du dessin, on est sur un dessin qui est plutôt fin. Les personnages ont donc dans sa jeunesse, Diana a ce côté un petit peu grosse tête, mais les regards sont très pénétrants, très forts. Il y a vraiment un joli travail sur les émotions qu'on peut trouver sur Diana. Au niveau du dessin, donc on est sur un personnage. Diana de Wonder Woman a toujours été représentée de manière assez musculeuse, avec des biceps saillants, des épaules très larges. Là, on est sur un personnage qui est dans sa jeunesse et ils ont réussi, Renée Delis a réussi à faire un personnage qui n'a pas encore cette carrure d'haltérophilie. Mais on devine quand même un personnage qui a du muscle et qui est très très athlétique et c'est vraiment bien fait. Surtout en parallèle d'un autre personnage qui est plus en rondeur et qui pourtant un petit peu comme on en discutait tout à l'heure dans la volonté, elle s'assume, elle est ronde, elle sait qu'elle plaît et elle s'en fiche en fait d'être ronde. Donc et puis nous en tant que lecteur, on s'en fiche aussi qu'elle soit ronde, ça n'importe pas, ça n'impacte absolument pas la lecture et du coup c'est vraiment sympa. Donc voilà. Moi je connaissais pas vraiment beaucoup, j'avais pas lu vraiment d'origin story en fait de Wonder Woman. Je connaissais un petit peu ce qu'on m'en disait. Je sais qu'il y a eu plusieurs reboots et je pense que cet ouvrage Wonder Woman Legendary, ça peut être une très bonne porte d'entrée pour le personnage, que ce soit pour le jeune public ou pour un public un peu adulte. Et vraiment on a un récit complet en presque 300 pages. Qui se lit ma foi bien. Moi j'ai juste un petit bémol quand même, alors ça c'est sans doute, je sais pas si en VO c'était ça, le choix de certaines couleurs, ça écrit assez petit et j'avoue qu'à mon grand âge qui commence, j'ai besoin de lunettes et de beaucoup de luminosité et il y a certaines couleurs de texte, une espèce de orange qui n'est pas hyper lisible, ce qui est un petit peu dommage, mais le reste se lit ma foi assez bien, à condition d'avoir une bonne source de lumineuse ou de bons yeux, ce qui n'est pas tout à fait mon cas. Donc vraiment un bel ouvrage, vraiment sympa, un bon moyen de découvrir Wonder Woman. Je redonne les références, c'est Wonder Woman Legendary de René Delis, c'est aux éditions Urban Comics dans la collection Urban Link.
Radio G 101.5 FM.
On est toujours sur le 101.5 de Radio G. On enchaîne toujours au niveau du comics avec un monument souvent méconnu du comics, à savoir le grand Geoff Darrow avec The Shaolin Cowboy, les volumes 1 et 2 aux éditions Futuropolis. Il y a 3 volumes, je ne sais pas quand est-ce que sort le 3ème, je vous avoue que je ne me suis pas renseigné. Pourquoi je dis un monument ? Eh bien parce qu'il faut savoir que Geoff Darrow est un monstre de dessin. Il est capable de rendre des dessins de manière assez démentielle. Ça fourmille de détails. C'est un truc assez hallucinant. Je manquerai de mots pour le décrire à la radio. C'est vraiment très détaillé. Les ouvrages, les deux ouvrages dont je vais vous parler, donc forment un triptyque. Et cela raconte les histoires du Shaolin Cowboy, une espèce d'asiatique en jean bleu avec une espèce de veste rouge à casquette. Au début, on le découvre sur le dos d'un mulet avec une visière de soleil verte. Et ce mulet parle. Alors, mentalement, moi, je me suis dit, tiens, c'est forcément la voix d'Eddie Murphy, puisque on pense immédiatement à l'âne de Shrek. Et il a le bagout de cet âne de Shrek, alors que le fameux Shaolin Cowboy que je vous ai décrit juste avant, lui, est plutôt taciturne et peu loquace. Derrière le Shaolin Cowboy, on peut distinguer tout un fatras chargé sur ce mulet, qui sont des armes de diverses époques, des outils visant absolument à faire le mal et la destruction, et surtout faire extrêmement mal et détruire la tronche de pas mal de gens. Ce qui arrivera, puisque le Shaolin Cowboy va manier à la manière d'un cowboy tout cet arsenal, principalement un petit sabre qui ne paye pas de mine, pour trucider tout un tas de truands, de cowboys qui vont pouvoir se mettre au milieu de son chemin. Alors vous dites, oui, mais Seb, raconte-nous en plus de quoi ça parle vraiment. Écoutez, au niveau scénario, ça reste un petit peu mince. Le but de cet album, c'est vraiment un défouloir, c'est vraiment de s'amuser dans des bains de sang, puisque ça reste très sanguinolent, mais c'est surtout vraiment la démence graphique de cet ouvrage qui permet d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent, puisque scénaristiquement parlant, ce sont des rencontres, ce sont des personnages qui vont se mettre en travers du chemin de ce Shaolin Cowboy sans qu'on sache vraiment ce que lui veut, et c'est vraiment un petit peu perturbant de ne pas savoir où on va, mais on le suit dans cette traînée rouge de sang et de boyaux qu'il laisse à travers tout l'Ouest américain. C'est assez impressionnant. Donc on retrouve cette ambiance un petit peu western, on retrouve cette ambiance de film de cow-boy. Je pourrais vous mettre Kung Fu Fighting avec les notes de Sergio Leone derrière, ça mixerait tout à fait ce que vous allez pouvoir découvrir dans ce bouquin. Et on parlait du talent de Geoff Darrow. Il est capable d'expérimenter. Alors je pense que c'est un ouvrage qu'il a pu faire avec tout le loisir et toute la liberté qu'il pouvait, puisqu'on retrouve ici toute une succession de planches qui pourraient tout à fait figurer sur un poster à la longueur interminable. Dans le premier tome, en fait, on a à un moment des personnages qui viennent arrêter le Shaolin Cowboy dans son trajet, et puis ils sont très nombreux, et au fil des pages on va se rendre compte qu'on est en train de progresser dans un lent travelling à travers la file d'attente de ces personnages qui n'ont qu'une envie, c'est d'en découdre avec le Shaolin Cowboy, et on est ça sur plus d'une dizaine de pages. Je vous laisse imaginer en fait la longueur l'inventivité qu'il faut pour qu'on n'ait pas l'impression de s'ennuyer dans ce défilé de personnages dont les tronches ne feraient pas mauvaise figure dans un film de Sergio Leone. Et c'est vraiment hyper hyper sympa d'avoir cette espèce de choses démentielles, puisque c'est vraiment superbe, c'est hyper détaillé, c'est très pointilleux. Moi, c'est vraiment le dessin qui me rend dingue. Je vous avoue que c'est un truc de fou. Et j'avais découvert Geoff Darrow avec Hardboiled, qui était publié je crois chez Delcourt il y a très très longtemps dans la collection Contrebande de mémoire. Et c'était vraiment un truc déjà de folie furieuse. Et je vous cache pas que Shaolin Cowboy, c'est pas forcément un truc hyper récent. J'avais pas eu là entre les mains le tome 2, et ça a été l'occasion de le découvrir et de se rendre compte que les pages dont je vous parlais tout à l'heure sur ces personnages qui attendent le Shaolin Cowboy, il a réitéré l'expérimentation dans le tome 2, puisque nous avons une baston du Shaolin Cowboy contre une horde, une invasion de zombies sur près de 80 pages sans quasiment aucun texte. Ce ne sont que des découpages. Bon, le Shaolin Cowboy c'est équipé, donc c'est pas un spoil, hein, on le voit directement sur la couverture, une espèce de, comment dire, une espèce de bâton sur lequel il a fixé deux tronçonneuses à chaque bout. Enfin, une tronçonneuse à chaque bout. Et du coup, il s'en sert comme un bâton d'arts martiaux, de mouvement, en tronçonnant au fur et à mesure les zombies. Et puis, à un moment, ça marche plus. Alors, il y va à coups de poing, à coups de pied. Et sur quasiment 80 pages, on a du trucidage de zombies, du giclage de boyaux, des volées d'hémoglobine à travers. Et pas à un seul moment, on ne s'ennuie en fait à travers ces pages qui sont pourtant un petit peu répétitives. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que on va ressent la fatigue au fur et à mesure. Le Shaolin Cowboy se fatigue hein, dans ce combat, et au fur et à mesure, nous, on se fatigue également à le regarder. Et quand il arrive à la fin de son combat, bah, on est un petit peu à bout de souffle, on est un petit peu épuisé comme lui l'est. Alors moins hein, quand même, parce que nous, notre vie n'a pas été en jeu. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Et c'est vraiment super. Donc faut y aller. Enfin, si vous connaissez pas Geoff Darrow, faut vraiment soit commencer par The Shaolin Cowboy, soit essayer de trouver Hardboiled qui était vraiment sympa. C'est vraiment un truc de dingue. Je vois pas quoi vous dire de plus à part courez-y. The Shaolin Cowboy, en plus, c'est que 3 tomes. Les bouquins sont d'un beau format. Les bouquins, ils font presque 35 cm sur 24, ce qui est un format plutôt agréable. Et ça permet de profiter pleinement, on va dire, du travail de Geoff Darrow et de la virtuosité de son dessin. C'est vraiment, vraiment top. Moi j'adore, enfin, c'est vraiment un truc de fou, et je pense qu'il faut voir la virtuosité et le talent de ce dessinateur et de cet homme, que ce soit en termes de trame narrative ou juste en termes de folie furieuse de dessin. Je finirai cette chronique hein, avec la citation qu'on trouve au dos du tome 2 hein, de Shaolin Cowboy, une citation que l'on doit à Moebius, un magnifique dessinateur s'il en est un, et qui disait: le seul dessinateur américain avec qui je suis devenu copain, c'est Geoff Darrow, mais lui c'est un vrai marginal, il a beau être américain, c'est un mutant, et puis il parle français. Donc voilà, si ça peut mon avis personnel sur Geoff Darrow ne vous a pas suffi, suivez au moins celui d'un monstre de la bande dessinée qui était Moebius, qui trouvait que c'était quand même un truc de dingue, ce monsieur. Je leur donne les références. Shaolin Cowboy de Geoff Darrow. Pour l'instant, il y a 2 tomes aux éditions Futuropolis, sans doute 3 à venir. That's all, folks. Vous l'avez entendu, chers amis, c'est Porky qui vient de résonner. Ça signifie que c'est bientôt l'heure de nous quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que je vous ai donné de belles idées de lecture, que vous serez fidèles au rendez-vous la semaine, alors dans 15 jours, pas la semaine prochaine, j'ai gardé de mauvaises habitudes de la saison précédente, et qu'on se retrouvera pour de nouvelles lectures. N'hésitez pas à me faire part de vos envies, si vous avez envie que je chronique certains albums sur la page Facebook de l'émission, et puis ou même à commenter ou à m'envoyer hein, si vous voulez aussi vous chroniquer dans cette émission. Ce sera avec grand plaisir que je diffuserai vos envies ou même juste les lire. On se retrouve dans 15 jours et n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
www.radio-g.fr.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Fournir tout ce que votre imagination peut concevoir.